Et non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Adichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmand d'As. Le gourmand d'As, pourquoi ? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez oum, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez as, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Bonjour à tous, c'est Daniel Baillet, le gourmand d'As. Je suis de retour peu avant les fêtes de fin d'année et à cette occasion, bien sûr, je me suis fait très plaisir, j'espère que vous prendrez le même plaisir que moi, à parler d'un vin d'exception ou de quelques vins d'exception s'il en est, que moi j'appelle vin de Noël parce que c'est une en partie ce que je consomme à Noël. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du plus grand, certainement le plus grand vin du monde, en blanc sec. Il s'agit du Mont Rachet. Écrivez Mont Rachet et prononcez Mont Rachet comme le Mont Chauve, le Mont Pelé. Voilà, donc vous savez, son nom fait rêver. Il connaît la gloire depuis le XVIIIe siècle. C'est le Graal absolu. Reste à percer un peu le secret de ce vin mystique et mythique. Donc, nous allons essayer de faire tout ça aujourd'hui à travers une présentation assez simple. Je vais essayer de vous parler à travers le Mont Rachet du découpage de terre, ce qui existe pour la Bourgogne depuis les Romains avec les voies romaines, mais depuis surtout le 14e, le 15e et le 16e siècle, et puis plus fort depuis le 18e, sur la déclinaison de plusieurs secteurs, la création de ce qu'on appelle les climats, ces petites parcelles magnifiques cernées de pierre avec leur nom dessus. Et toute l'histoire associée, vous savez que la Bourgogne, quand on parle de Grande Bourgogne, on parle souvent d'adresses très petites, de clos et de lieux-dits. On en reparlera, bien sûr, naturellement, hein, autour de cépages qui sont toujours les mêmes, pour le rouge essentiellement les pinots, mais aussi du gamay, le gamay. Et pour les blancs, ben, essentiellement le chardonnay, bien sûr, qui fait chanter les plus grands crus, mais aussi le melon de Bourgogne, mais aussi la ligotée, dont nous parlerons aussi un peu, s'il nous reste un peu de temps. Donc évoquer le nom de Mont Rachet, bien sûr, ça constitue un aveu d'admiration, évidemment, un flagrant délit d'extase, je n'ai pas peur des mots. Le Mont Rachet, le grand Mont Rachet, le vrai Mont Rachet, les livres le désignent ainsi, et la mémoire collective aussi. Éloge et louange pour ce vin des cours royales, de présidents, de célébrités. Il est considéré comme le plus grand vin blanc sec de la Bourgogne, mais aussi, sans doute, du monde. Aucune autre appellation ne suscite autant d'inflation laudative. C'est un mythe vivant, il est issu d'un très très grand terroir. On en parle au superlatif, et le raconter, c'est le rencontrer et forcément chercher à percer le secret de ce grand cru. Il est évidemment le plus cher, le plus rare de la Bourgogne. Un Mont Rachet coûte entre certainement 250 € si vous avez la chance d'en trouver, 900 €, mais plutôt 2500 qui est son vrai prix. Et la bouteille à la carte d'un restaurant gastronomique, je n'en parle même pas. Alors le Mont Rachet de la côte de Beaune, puisqu'on va vous expliquer un petit peu la déclinaison géographique, la déclinaison des appellations, est au blanc ce que la Romanée Conti, dont les propriétaires sont aussi présents en Mont Rachet, est au rouge. Voilà, le Mont Rachet, c'est du blanc, évidemment, tandis que ce grand cru de la côte de Nuit, je parle de la Romanée Conti, demeure le monopole d'un seul domaine du même nom, le Mont Rachet, grand cru de Chassagne-Mont Rachet et Puligny-Mont Rachet en côte de Beaune, puisqu'il est à cheval sur les deux communes, se partage en 18 propriétaires, qui sont une poignée d'élaborateurs et qui réalisent leur propre cuvée. Incroyable pour un tout petit territoire qui ne fait que 7 hectares, 99 très précisément, même pas 8 hectares. 18 producteurs pour 8 hectares. Alors, comment vous dire ? C'est bien sûr une histoire de découpage de territoire. C'est la naissance des appellations. Je vous ai parlé de ces climats, ces petites parcelles qui sont murées et qui délimitent les zones personnelles de chaque propriétaire. Le Mont Rachet, lui, Mont Pelé, Mont Chauve, Mont Charaz, en patois bourguignon. Donc c'est le synonyme de perfection, de graal, de merveille pure à jamais égalée. Pourtant d'autres très grands crus sont plantés autour de lui, mais évidemment, ne donnent pas la même chose. Déjà, les Romains l'avaient noté en créant les voies appiennes, les voies romaines, un peu comme ils avaient délimité Pomerol et la lande de Pomerol ou Saint-Émilion et ses satellites. C'est toujours comme ça. Au nord, eh bien, c'est Dijon. De Dijon à Chalon-sur-Saône, se dresse Beaune et sa côte d'or, le triangle d'or, celui dont on dit que c'est de l'or en bouteille qui coule de ses vignes. Sur sa route se dressent des crus prestigieux, pour ne faire que les nommer, parce que leurs noms, je ne voulais pas les oublier, ils sont tellement beaux. C'est Marsanais, bien sûr, Marsanais-la-Côte, Fixin, Gevrey-Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny, Vougeot, la Vonne-Romanée, les Nuits-Saint-Georges, Pernant-Vergelès, Alos-Corton, Savigny-les-Bonnes, Beaune, Pomard-Volnay, Montélie-Meursault, Saint-Romain-Ossé-Durès, Saint-Aubin et enfin la déclinaison extraordinaire des Monts Rachet, à cheval sur Puligny et Chassagne. C'est l'histoire de cette côte de Beaune qui relie la côte chalonnaise de Santenay, Marange, Bouzeron, Rully, Mercury, Juvry, des appellations qui montent, dont nous parlerons dans une autre chronique, en allant vers le Mâconnais, bien sûr. Ici sont élaborés les vins les plus riches et les plus chers, évidemment. Les vins élaborés sur les climats, ces petites parcelles, qui aujourd'hui sont placées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc 7 hectares, 99, 18 propriétaires. J'essaierai de vous donner quelques belles adresses en fin de chronique. Donc, environ 18 propriétaires et 50 000 bouteilles. Vous voyez, c'est très très peu. Et c'est l'aîné d'une fratrie de 4 grands crus autour de Montrachet. Les bâtards de Montrachet, les criots bâtards de Montrachet, les bienvenus bâtards de Montrachet et les chevaliers de Montrachet. Alors dans si peu de territoire, eh bien fatalement, les comtes à l'époque, donc au départ de l'appellation, qui possédaient ces vignes, avaient souvent donné, pour avoir fait un bâtard à une jeune fille du pays, avaient donné souvent un petit bout de vigne, ce qui a donné le bâtard de Montrachet. Il y en a 3 différents, et aussi des criots bâtards de Montrachet ou les bienvenus bâtards de Montrachet. Histoire, vous voyez, on va dire, entre nous, sentimentale, certainement, de près ou de loin. Et aussi les chevaliers de Montrachet qui, naturellement, à l'époque, où surtout sous Louis XIV, tous ces duchés étaient extrêmement puissants, la Bourgogne, l'Artois, l'Aquitaine, le Roussillon, tous ces pays qui étaient dirigés par des ducs qui n'avaient d'idée que de guerroyer, ben naturellement, à leur retour, étaient envieux et le roi, pour les calmer souvent, ou leur attribuer des territoires et leur donner souvent de très beaux vignobles. Ça a été le cas aussi avec l'Église qui a donné à la famille donc de Lugny le fabuleux terroir de Montrachet qui a été repartagé par la suite après la Révolution. Donc la côte de Beaune, on peut dire aujourd'hui où sont ces très grands vins, c'est la côte méridionale, si on veut, de Bourgogne, c'est-à-dire le sud de la Bourgogne. Et oui, Stendhal s'étonnait d'ailleurs que cette petite montagne pelée puisse produire d'aussi grands vins. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, on pourrait dire que l'habit ne fait pas le moine. Bon, elle était facile, je vous l'accorde. Mais elle est un peu vraie quand même. C'est en effet un paradoxe bien bourguignon qu'un sol et un sous-sol de cette colline pelée, rocailleuse, puissent donner naissance au plus grand vin blanc sec du monde, alors que c'est un sol pelé sur lequel poussent quelques épineux et quelques buistes sauvages. Les seigneurs de Chagny, bien sûr, ou les moines de l'abbaye voisine de Mézières, les fameux cisterciens, auront vite compris le potentiel de ce terroir. Sud-sud, sans égal, où affleure une veine de terre brun-rouge, pour lequel il est d'usage quand on a traversé ces vignes, de racler ses sabots ou ses chaussures lorsqu'on a travaillé dans le Montrachet, de la terre amoureuse. Donc, Montrachet, bien sûr, avec Chassagne et Puligny-Montrachet, les deux appellations sur lesquelles l'appellation le Montrachet est à cheval. On dit les Montrachets de Chassagne plus lourds, les Montrachets de Puligny plus vifs. Les bâtards et les criots bâtards, les bienvenus bâtards, les chevaliers de Montrachet, et je me permettrai de vous en parler parce que celui-là, j'ai eu la chance de le goûter, j'ai la chance de le goûter souvent par rapport au Montrachet que je n'ai goûté que 2 fois dans ma vie. C'est le Corton Charlemagne des coteaux de l'Adois qui porte ces merveilles d'appellation et qui donne des choses absolument merveilleuses avec des lieux-dits, rien qu'à les nommer, j'en frissonne déjà, la Pucelle, les Grenouilles, les Barreaux, le Clos de Vougeot, le Clos des Mares, le Clos des Renardes. Oui, incroyable, une richesse incroyable faite plus les vins sont qualitatifs de tout petit climat. Alors en Bourgogne, c'est les clos lieux-dits, on l'a dit, le lieu-dit les Famelottes, les Folatières, les vignes de Mayange. Pour le reste, eh bien, ce sont aussi des appellations, et heureusement pour tout le monde, régionales, et surtout des vins de négoce qui permettent de, aujourd'hui un peu à tout le monde d'avoir accès aux vins de Bourgogne, qui restent quand même un peu relativement chers. Alors, ça ne veut pas dire, parce qu'on n'est pas à Montrachet, qu'il n'y a pas de belles choses. Il y a aussi de belles choses en Côte de Nuit, donc au-delà de la Côte de Beaune vers le nord, comme il y en a aussi dans la côte chalonnaise, entre Rully, Montagny, Mercuré, jusqu'à Viré-Clessé. Alors ceci ne doit pas nous faire oublier, bien sûr, les autres crus très nombreux de Bourgogne, hein, dont on entend parler du Chablis, puisque si vous allez en Angleterre et que vous demandiez à boire un verre de vin blanc, on vous servira forcément un Chablis, alors que si vous êtes en France, eh bien, on vous servira sûrement un Tariquette, plus proche de chez nous. Alors avant de parler de comment le déguster, à quel moment, la température, les types de verres, avec quoi peut-on le boire, et de vous faire une grande tournée de Grand-Duc, ben je vais essayer quand même de vous parler aussi, donc, de toujours dans cette histoire, parce qu'elle est très très importante pour moi, donc de cette région, avec un propriétaire historique à l'époque, hein. Il n'y a donc autant d'étiquettes que d'embouteilleurs, bien sûr, tous ne se valent pas, même si le Montrachet se doit d'être excellent à chaque millésime, et dans chaque domaine, évidemment. Il en va de sa réputation. Alors, qu'est-ce que le Mont-Rachet ? C'est une parcelle de Chardonnay, d'un seul tenant, au pied du Mont-Rachet, le Mont-Rachat, ce mont Chauve, donc ce rectangle de 8 hectares, très précisément 7,99, entouré d'un mur de pierre sèche, avec des portes en pierre qui signalaient la parcelle du propriétaire. Alors, majoritaire, le possédant historique demeure le marquis de la Guiche, à qui on attribue les parcelles données aux bâtards et aux chevaliers. Ex-famille de la Guiche pendant la Révolution française, soit 2 hectares de vignes et quelques arts côté Chassagne, car le vignoble de Mont-Rachet est évidemment à cheval sur les deux communes, Chassagne et Puligny. Exploité selon des accords commerciaux incroyables par la famille Joseph Drouin, très très grande maison de négoce il en est, négociant Benoît, cette parcelle la Guiche produit, ce qui est très rare là-bas, 30 à 40 pièces de 228 litres par an, par vendange. Et pour Frédéric Drouin, le Mont-Rachet symbolise le Graal, évidemment, l'archétype du grand vin blanc sec mondial. Pendant des siècles, ce terroir a constamment produit un vin qui procurait plus de plaisir que ses illustres voisins. Et ceci, le Chevalier Mont-Rachet, un autre grand cru d'élite situé en amont, reste, lui, dit-on, plus austère. Quant au bâtard de Mont-Rachet, au pied de la parcelle, plus lourd, ben, les moines cisterciens avaient déjà en effet remarqué que ce vin a aussi une capacité de garde et de vieillissement supérieure aux autres. Pourtant, quand on regarde ce petit vignoble bordé par la RN6, on n'est pas tellement impressionné. Là où le Mont-Rachet bat tous les autres vins, eh bien c'est surtout par sa longueur aromatique en bouche. Je vous garantis que j'en ai bu quelques fois, et du vrai Mont-Rachet deux fois du très grand, que franchement, vous vous en rappelez toute votre vie. C'est le vin le plus long, conclut Frédéric Drouin. C'est aussi le seul vin qui aime le bois neuf et surtout en prend le dessus. Un vin même encensé par Alexandre Dumas, le Mont-Rachet, ce sont ceux qui l'ont goûté, les heureux bien sûr, qui en parlent le mieux. C'est ainsi qu'elle a été rendue célèbre par d'illustres personnages. Alexandre Dumas écrit que le Mont-Rachet devait être bu, tenez-vous bien, à genoux et tête couverte. Thomas Jefferson, ambassadeur sous Louis XVI, avant de devenir président des États-Unis, dit qu'il est évidemment le plus grand vin français et fait frapper ses bouteilles de ses initiales. Le poète Maurice Desombrieux note qu'il procure une joie d'onisiaque, vous pénètre et vous ouvre les portes du paradis. Jean-François Bazin le décrit comme une main d'or pur sous un gant de soie naturelle. Un panache de compliments le précède et le suit, comme on sait. Et comment et pourquoi ? Cette si grande finesse, cet or si somptueux, on parlait de l'or en bouteille avec les voisins de Meursault, bien sûr, ce bouquet si délicat aux saveurs inimitables, de noisettes, d'amandes, de fleurs blanches, d'acacia, de miel, de raisins muscatés, s'ajoute à une structure tannique quasi de vin rouge. Au point qu'à l'aveugle, on pourrait le confondre. Imaginez un vin blanc qu'il faut attendre au moins 10 à 15 ans avant de le boire avec ce que l'on voudra, mais plutôt un beau tourbeau, un dos de bar, un Saint-Pierre, des crustacés à la nage, ou, tenez-vous bien, nous sommes plus près du Graal, un foie gras d'oie, j'ai bien dit d'oie, Pourquoi ? Bien évidemment, parce que peut-être moins fort en goût, mais beaucoup plus gras. Et même s'il doit supporter une petite lichette de sel, de fleur de sel, toujours imaginez un foie d'oie qui est plus gras pour aller avec le gras beurreux de ce saumon haché. Alors comment et pourquoi tout ça, c'est absolument incroyable, cet îlot si protégé. La réponse, il y en a un mot, c'est l'alchimie. C'est l'alchimie d'un grand terroir argilo et marno-calcaire sur une couche blanche de bâtonnier moyen, là je vous en fais cadeau évidemment, veinée de silice et d'oxyde de fer, comme en témoigne sa terre rosâtre. Exposition est-ouest côté Chassagne et nord-sud côté Puligny. Au soleil levant, on dit que le mont Raché de Puligny est plus élégant, tandis qu'il est plus riche à Chassagne. Le mont Raché, un climat hors du commun, un îlot protégé, situé à 250 mètres d'altitude pour son point le plus haut, exactement comme la Romanée-Conti dans les Rouges. Jamais de brouillard, jamais de gelée, et un climat sub-méditerranéen, type Montélimar, avec amandiers, cigales, l'été, pins sylvestres et aneth, déclare Jean-Claude Valeran, auteur et mémoire vivante du Mont Raché. Alors pour digérer tous ces éléments que j'ai essayé de rendre synthétiques, pas forcément facile, l'approche de la Bourgogne est une approche assez compliquée, assez dense. Et avant de parler bien sûr de notre bonheur à tous, celui que je vous souhaite, car c'est vraiment un beau cadeau de Noël et un beau cadeau dans la vie en général, la possibilité de déguster un de ces très grands crus, allez, on va se faire plaisir avec un petit peu de douceur musicale.
MDM.
Nous sommes de retour avec le Mont Rachet, j'en ai plein la tête et plein les papilles déjà. Voilà, alors sachez que obtenir une bouteille de Mont Rachet n'est pas une affaire simple. Tous les ans, ces quelques propriétaires sont très sollicités et il y a depuis très très longtemps un ordre de clients établis qui sont servis normalement tous les ans. Pour le plus grand domaine, bien sûr, c'est possible d'en avoir, d'en trouver dans certains restaurants de qualité. Et autrement, c'est surtout les triplement étoilés, les chefs d'État, enfin, je vous en passe des meilleurs, quelques sommités qui en bénéficient, puisque la production est quand même une très, très petite production. Alors, moi, avant de vous parler de Mont Rachet, je vais vous dire qu'à défaut, j'ai une très belle adresse sur laquelle bien, il faut composer. Le principe est le suivant, à Mont Rachet, on n'est pas en attente de vente, donc vous payez aujourd'hui pour être livré dans 3 ans. C'est très simple. Comptez en moyenne 3 bouteilles par famille, par client, et dans les bons endroits. Alors moi, en ce qui me concerne, je n'achète pas de Mont Rachet parce que c'est difficile, mais je vous recommande vivement, à côté de Mont Rachet, celui qui en est sans doute le plus proche, dans les Ladois, la région de Ladois, le Corton et la région des Cortons, le Corton Charlemagne, de la famille Bonneau du Martré, pour laquelle, voilà, on serait presque au bord de la prostitution, tellement qu'il est absolument fantastique. C'est mon apéritif de Noël. Avec un peu de chance, donc celui que je boirai cette année, eh bien, je l'ai déjà réglé, évidemment, il y a 3 ans, mais ça m'a permis de maintenir mon rang, parce que si une seule fois j'oublie, eh bien, malheureusement, quelques Chinois ou quelques clients étrangers aura vite fait de prendre ma place. Voilà, donc ceci étant, d'autres Bourgognes seront aussi très très bons. Allez vers la côte chalonnaise, n'hésitez pas. Allez vers les Meursault, bien évidemment, hein, du Clos des Mouches, sans aller même jusqu'au Clos des Mouches, bien sûr, des Comtes-Lafond. Allez, vous allez voir, vous allez vous régaler partout. Alors, moi, je vous parle donc de Mont Rachet à travers une dégustation que nous avons faite de Mont Rachet aujourd'hui d'un 2008. Voyez un peu l'ambiance. Alors, j'ai sélectionné 10 domaines, bien sûr, parmi les plus grands, bien évidemment. On commençait, parce que ce ne sont de toute façon que de très, très grands noms qui sont présents sur ces petits climats, ces petites parcelles. Donc, le domaine de Jacques Prieur, très, très vieille maison, en Mont Rachet Grand Cru. Donc, il est à Meursault depuis la fin du XVIIIe siècle. Le domaine possède, lui, 59 hares de Mont Rachet. Vous vous rendez compte, même pas un demi-hectare. Édouard de la Bruyère, le propriétaire, assisté de l'onologue Nadine Gublin, très très grand nom en Bourgogne, et de Martin Prieur, pratique une vendange à très haute maturité. Ça n'est pas toujours le cas en Bourgogne blanc. Ici, c'est une vendange à très haute maturité, et Madame Gublin nous dit qu'à partir d'un certain stade, le vin, même s'il fait soleil, s'il fait chaud, le vin ne bouge plus. 12 pièces de fût neuf pour la fermentation de vin, suivi de son élevage 22 mois. Un vin de texture, un vin au profil assez fougueux, un vin puissant quand même, profil très très fougueux. Donc après la maison Jacques Prieur, une autre très très grande maison, mais sûr qui exploite les vignes du marquis de la Guiche, c'est Joseph Drouin, grande maison de négoce bourguignon, qui a le plus grand vignoble, hein, puisqu'il fait 2 hectares, ce qui de là-bas est absolument impensable. Maison fondée à Beaune en 1880, maison de négoce qui exploite la parcelle du marquis de la Guiche en exclusivité. Des fûts maison, 3 ans de séchage, accueille ce grand cru subtil, floral, avec des notes de noisettes fraîches, très imbibées de noisettes, très impressionnant. Grande longueur en bouche, évidemment. Frédéric Douaudrouin se souvient encore de la passion d'Alfred Hitchcock pour les cuvées de son père, voilà, qu'il avait dans ses amis et grands dégustateurs de Mont Rachet. On serait bien sûr satisfait à moins. Donc la maison Jacques Prieur, ensuite la maison Louis Latour. Louis Latour, une maison fondée en 1797, vous voyez, toujours la longévité. Maison de négoce beaunoise, aussi tonnellerie, ce qui n'est pas rien, fabriquant ses propres tonneaux et pour ses confrères. Louis-Fabrice Latour et son œnologue Jean-Charles Thomas, très connu en Bourgogne, hein, achètent le raisin de Mont Rachet auprès de la parcelle Regnault de Beaucaron, soit 0,78 tares, imaginez un peu. Vendangé en 4 heures pour 10 à 12 pièces par millésime. 100% de fût neuf, évidemment, des arômes sublimes. Ici, on est plutôt sur le miel, la fleur d'acacia et beaucoup, beaucoup de minéralité. C'est un vin opulent qui, même, vous voyez, depuis 2008, se garde encore et sera encore d'une grande fraîcheur dans quelques années. Donc, vous voyez, la maison Louis Latour, très, très grande maison. Alors, bien sûr, le domaine de la Romanée-Conti, facile, hein, d'en parler. C'est ce domaine mythique de la Côte de Nuit qui possède 67 arts en Montrachet, tenu donc de très vieilles vignes, 70 à 100 ans, acquises entre 64 et 1980. 1964-1980. Alors les copropriétaires, bien, c'est Aubert de Vilaine, qui a bien sûr d'autres propriétés très connues en Bourgogne, figure emblématique de la Bourgogne, copropriétaire, avec il n'est plus là, paix à son âme, Henri Roch, c'est maintenant sa fille qui a pris la suite, qui travaille ce très très grand chardonnay, en biodynamie évidemment, ce qui lui apporte une finesse et une maturité complémentaires, donc avec une robe très foncée. Là-bas, on n'a pas peur d'avoir des vins blancs foncés, on n'est pas comme ici ou dans d'autres appellations. Les vins sont somptueux, gourmands aux notes exotiques, une envolée riche et tellement artistique, incroyable pour ce Montrachet, légal en blanc de la Romanée Conti, du même domaine, en rouge. Dans les grandes maisons, très grandes maisons aussi, Bouchard, père et fils, même s'il est connu pour avoir fait des associations uniques en Bourgogne de plusieurs grandes propriétés. Troisième producteur de Montrachet, après le marquis de la Guiche quand même, et le baron Thénard. La maison fondée en 1731, installée à Beaune en 1821, voyez de l'histoire, champenoise depuis son rachat par Henriot, le groupe Henriot. 89 arts de Montrachet, progressivement à partir de 1838, situé côté Puligny, donc qui offre un vin aromatique, aubépine acacia, fleurs blanches, pêches blanches, préservées de toute oxydation, grande pureté. Vous savez qu'ici, en Montrachet, on soutire très, très, très peu. On ne veut pas exposer le vin à l'air, donc on garde dans les fûts. La maison Louis Jadot, bien sûr, dont je vous parlais tout à l'heure, la maison de Beaune, dirigée depuis 1992 par Pierre-Henri Gaget, assistée de Jacques Lardière, œnologue star en Bourgogne, et comme Madame Gublin, achat de raisins sur la parcelle du baron Thénard depuis 1974, soit un hectare de chardonnay, ce qui là-bas est exceptionnel, élevé en fût neuf sous la charpente circulaire d'un nouveau chai un peu à la Ricardo Bofill, chez Mouton Rothschild, Lafitte Rothschild plutôt. Fermeté, grande énergie vitale, un vin même pas tout à fait ouvert encore à la dégustation depuis 2008, voyez un peu l'ambiance. Ensuite donc les domaines de Marc Collin et fils, un peu moins connus, mais... très bien, c'est le neveu du grand régisseur de Montrachet, l'abbé Collin, voilà. Les enfants de Marc, deux fils et une fille, ont repris le domaine avec brio, ils sont côté Puligny, 10,68 arts de Montrachet, quand même fabuleux. L'un des plus remarquables qu'il ait donné de goûter, alliant pureté, longueur, fraîcheur et droiture. J'aimerais bien, un de ces quatre, le goûter. Les domaines Ramonet, bien sûr, Jean-Claude Ramonet, un homme à part, un peu, pas la grande gueule, mais quelqu'un qui a un parler franc, 43 ans, troisième génération à Chassagne, il achète sa parcelle de 26 arts en 78, soit 4 pièces et demie de Montrachet, en lutte raisonnée. Son 2008 affiche cette pureté d'arôme, de la pêche blanche incroyable, des fruits blancs. Grand potentiel, vin spirituel qu'il va falloir attendre, vous voyez, c'est quand même incroyable. L'un des meilleurs rapports qualité-prix, le seul à nous l'avoir donné aussi, 112 euros la bouteille, exceptionnel. Domaine des Comtes Lafond, bien voilà, ici c'est aussi avec les Meursault. Voilà la très grande maison en biodynamie depuis 92. Lafond est né dans le Montrachet, formé par Pierre Moret, mène le domaine avec son grand-père, Jules Lafond. 8 ouvrés de surface, c'est-à-dire 31,82 arts. Les ouvrés, c'était le travail d'un ouvrier pour la journée, à peu près. Ce passionné préserve ses veines d'oxydation et les élèves longuement, on touche au grand raffinement. Puissance, pureté, fraîcheur, bon voilà, toujours, toujours, toujours l'excellence, toujours le... voilà. Eh bien, on pourrait en parler pendant 3 jours naturellement. Nous parlerons au début de l'année, en ayant passé ces fêtes à déguster de bons vins. Si ça n'est pas du Montrachet, ça pourrait être plein de bonnes choses que nous connaissons. En tout cas, ne vous en privez pas. Et nous nous retrouverons, bien sûr que nous reparlerons de grands vins, et de grands plats, de grandes associations. J'ai même pas eu le temps de vous donner l'association majeure, à part les poissons, le turbo, mais on pourrait aussi parler... d'une poularde, pas en vessie parce que je ne sais pas la faire, mais peut-être tout simplement dans un pocher, dans un torchon, et par la suite passer au four, et à mon avis vous vous rappellerez du Montrachet ou de quelques Bourgognes blancs que ce soit. En attendant, il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes, bien sûr. Je vous embrasse tous et je vous dis à l'année prochaine sur nos ondes. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichat, à bientôt.